Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Au sommaire de cette édition, fermeture de deux écoles suite à l'éclosion d'un foyer de coronavirus dans un quartier nord de Melbourne. Le président Emmanuel Macron n'exclut pas un reconfinement face à la progression inexorable de l'épidémie de COVID-19. Et le Soudan normalise ses relations avec Israël. Le gouvernement du Victoria demande aux parents et familles du collège islamique de East Preston et ceux de l'école de Croxton de se faire dépister au COVID-19 après l'éclosion d'un foyer de coronavirus dans ces deux quartiers du nord de Melbourne. Les deux écoles seront fermées pendant 2 semaines et les leaders des communautés de ces localités sont reçus par le premier du Victoria pour des pourparlers pour faire face à la situation. Entre-temps, on signale que le Victoria a enregistré 7 nouveaux cas de COVID-19 et pas de décès. Daniel Andrews, le premier du Victoria, a déclaré que le gouvernement met tout en œuvre pour traduire les messages sanitaires dans différentes langues.
The vast majority of people can speak English and speak English well, but we have that as a sort of safety valve, if you like, to make sure that if anyone does need things to be explained in more detail, then we have the adequate staff.
Entre-temps, un contre-la-montre est engagé au Queensland pour trouver la provenance d'une souche mystérieuse de COVID-19 qui frappe l'équipage d'un cargo au large des côtes de cet État. Hier, 2 membres de l'équipage ont été positifs et ont été transférés dans un hôpital du Queensland. Le bateau, en provenance de Nouvelle-Zélande, se trouve bloqué près de la Sunshine Coast après qu'on lui a refusé l'autorisation d'amarrer dans le port de Brisbane. La Nouvelle-Galles du Sud, quant à elle, n'a pas enregistré de cas de COVID-19. Et entre-temps, on signale que dans cet État, les défenseurs du droit des animaux veulent bannir la chasse aux kangourous en Nouvelle-Galles du Sud. En effet, un petit parti politique de Nouvelle-Galles du Sud, le Animal Justice Party, veut interdire la chasse aux kangourous dont le nombre a été décimé suite aux incendies du début d'année. La France a dépassé hier le seuil symbolique du 1 million de personnes infectées par le nouveau coronavirus après un nouveau record journalier de contamination, soit 42 000 cas qui ont été recensés hier et près de 300 décès. Ces nombres inquiétants ont été annoncés sur fond de durcissement des restrictions à travers le pays. En visite à l'hôpital de Pontoise hier soir, le président Emmanuel Macron a confirmé que la dégradation de la situation sanitaire allait certainement rendre nécessaire un renforcement des mesures pour ralentir la propagation du virus. Et une semaine après la mort du professeur Samuel Paty, le gouvernement veut durcir la législation contre la haine en ligne qui aboutit à des menaces contre autrui. Le premier ministre Jean Castex a annoncé que le projet de loi contre les séparatismes, attendu début décembre, allait se pencher sur les réseaux sociaux. Le gouvernement entend aussi pénaliser ceux qui font pression sur les fonctionnaires, mais il ne s'arrêtera pas là. Explication Anthony Latti pour RFI.
Ce conseil de défense est terminé, mais on attend toujours les annonces du Premier ministre Jean Castex qui se trouve en fait dans un bureau juste à côté de la salle des fêtes de l'Élysée où je me trouve et qui est en train donc de peaufiner ses annonces. Avec ce nouveau conseil de défense, Emmanuel Macron veut préciser sa réplique pour combattre l'islamisme politique. Nous avons nommé les choses, nous allons maintenant durcir notre action, a lancé le chef de l'État mercredi soir lors de l'hommage à Samuel Paty à la Sorbonne. Ce qui est envisagé notamment, c'est de créer un délit de séparatisme, autrement dit de sanctionner les propos qui auraient pour conséquence d'inciter à la violence contre quelqu'un qui a exprimé son soutien aux valeurs de la République. La difficulté, c'est de ne pas restreindre la liberté d'expression sous peine d'être censuré par le Conseil constitutionnel. Autre mesure envisagée par le gouvernement, la création d'un délit de mise en danger de quelqu'un par la publication de données personnelles sur Internet, et on se rappelle que le nom de Samuel Paty avait été livré en pâture sur les réseaux sociaux avant son assassinat. Il s'agit donc de compléter, de durcir le futur projet de loi sur le séparatisme présenté le 9 décembre prochain, de montrer aussi qu'une semaine après l'attentat, l'exécutif est bien déterminé à apporter des changements concrets pour lutter contre l'islamisme radical.
Et toujours en France, une Française rentrée de Syrie a été entendue hier comme témoin au procès des attentats de janvier 2015. Rentrée de Syrie en janvier avec ses 3 enfants nés sur place, Sonia Mejri a affirmé devant un juge d'instruction que son premier mari était le commanditaire de l'attentat contre l'hypercacher. Reportage Marine de la Moissonnière pour RFI.
D'une voix calme, Sonia Mejri commence par raconter comment son premier mari, Abdel Nasser Ben Youssef, émir des opérations extérieures de l'organisation État islamique, lui avoue un jour, sous le coup de l'énervement, qu'il a organisé l'attentat de l'hypercacher pour lequel il a recruté Hamedi Coulibaly. Il ne lui en dira pas plus à elle, dont le rôle est de faire le ménage et à manger, elle qui n'a pas le droit de poser de questions. C'est Ayad Boumediene, la veuve du terroriste, que Sonia Mejri a croisé à plusieurs fois en Syrie, qui lui fournira d'autres informations. Elle disait souvent que son mari et les Kouachi avaient voulu faire les attentats ensemble pour créer une cohésion entre Daesh et Al-Qaïda, explique Sonia Mejri, qui décrit une jeune femme totalement acquise à la cause de l'EI. Pour elle, c'était Dieu qui faisait le ménage, qui éliminait les hypocrites jusque dans les camps. Ayad Boumediene continue de soutenir l'organisation djihadiste. Sonia Mejri, elle, a vite cessé de croire. Son premier mari lui faisait subir des viols et des choses interdites par l'islam, comme la sodomie, explique-t-elle, la tête baissée. À la fin de son audition, la mère de famille demande si elle peut passer un message. Elle s'adresse alors à la rédaction Charlie Hebdo. « Ne lâchez pas, dit-elle, vous représentez la liberté et c'est ce qu'ils détestent le plus, alors ne lâchez pas. »
Et détour au Royaume-Uni, où le gouvernement a déployé de nouvelles mesures sanitaires. Comme l'explique Muriel Delcroix, face à la lassitude de la population, Boris Johnson a été contraint d'introduire des mesures presque incohérentes.
Le Royaume-Uni aborde ce nouveau régime en ordre complètement dispersé, au risque de semer confusion et frustration au sein de sa population. En Angleterre, le gouvernement de Boris Johnson, sous la pression de son ministre de l'économie, fait tout pour éviter un confinement général. Et cela se fait parfois dans la douleur, notamment dans le Nord-Ouest, actuellement très affecté. Manchester a ainsi été placé de force en fin de semaine au niveau d'alerte maximale, après plusieurs jours de bras de fer entre Westminster et les collectivités locales qui voulaient plus de contreparties financières. L'Écosse, elle, a opté pour un système d'alerte qui comporte 5 échelons du niveau 0, le plus proche de la normalité, au niveau 4, où tous les commerces non essentiels devront fermer. Et ces autorités préviennent déjà les Écossais qu'ils n'auront pas un Noël normal. Pour sa part, l'Irlande du Nord a fermé pour un mois, mi-octobre, pubs et restaurants, et décidé de prolonger les vacances scolaires. Mais c'est le Pays de Galles qui est allé le plus loin en imposant à partir de vendredi à ses 3 millions d'habitants de rester confinés chez eux pendant 17 jours. Chaque nation britannique se dit persuadée d'avoir fait le meilleur choix, mais cette approche des Unis augure des résultats bien incertains.
Et le Soudan et Israël ont signé un accord de normalisation de leurs relations, une mesure saluée par la Maison-Blanche et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Compte rendu Anne Crapé pour RFI.
Le Soudan et Israël ont fait la paix, a déclaré le président américain après avoir passé un coup de téléphone aux dirigeants israéliens et soudanais. Benjamin Netanyahou était même sur haut-parleur devant la presse. C'est une très bonne chose, un formidable revirement, a commenté le premier ministre israélien. Un porte-parole de la Maison-Blanche a qualifié cet accord d'étape majeure vers la paix au Proche-Orient. C'est en tout cas une nouvelle victoire diplomatique dont le président américain peut s'enorgueillir à seulement une dizaine de jours des élections. Donald Trump a assuré que de nombreux autres accords étaient en préparation, au moins 5, a-t-il précisé. Quelques minutes avant cette annonce, le président américain avait formellement informé le Congrès de son intention de retirer le Soudan de la liste noire des États qui soutiennent le terrorisme. Dans un communiqué, la Maison-Blanche fait un lien entre ces deux annonces, évoque les progrès historiques réalisés par le Soudan et son retour plein et entier dans la communauté internationale.
Et les Nations Unies ont annoncé hier un cessez-le-feu global et permanent en Libye entre le camp de Khalifa Haftar à Benghazi et celui du gouvernement d'union nationale basé à Tripoli. Les belligérants ont signé un accord après 5 jours de discussion à Genève. Selon l'accord, les mercenaires étrangers doivent quitter la Libye dans une période de 90 jours, un point très important pour que la paix puisse être effective. L'aviation civile de Madagascar interdit désormais l'embarquement vers la grande île de passagers issus de 9 pays du continent européen, dont l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le Royaume-Uni, l'Ukraine ainsi que la Russie. Selon les autorités malgaches, les pays cités subissent tous une deuxième vague de pandémie. Cette liste pourra évoluer compte tenu de la situation sanitaire. Les vols commerciaux ne sont pas autorisés à reprendre. Le premier et le dernier vol de rapatriement vers Madagascar aura lieu le 1er novembre, conformément à ce qu'a annoncé le président malgache dimanche dernier. Et un coup d'œil météo à travers l'Australie pour ce week-end. Perth, 34 degrés. Adélaïde, 17. Melbourne, 13. Hobart, 13. Canberra, 14. Wollongong, 16. Sydney, 17. Newcastle, 18. Brisbane, 30. Cairns, 30. Et Darwin, 33 degrés. Et un rappel des principaux titres de l'actualité, fermeture des deux écoles suite à l'éclosion d'un foyer de Covid-19 dans un quartier du nord de Melbourne. Et le président Emmanuel Macron n'exclut pas un reconfinement face à la progression inexorable de l'épidémie de coronavirus. Et le Soudan normalise ses relations avec Israël. Fin de cette édition, après la pause, le magazine des sports.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.